Frère Dominique-Marie Dezet, bonjour.
Bonjour Violaine.
Vous êtes le recteur du monastère de Sarens, vous êtes chanoine prémontré, vous êtes arrivé il y a peu de temps donc dans ce beau monastère de Sarens dans la vallée d'Aspe. Vous venez nous parler aujourd'hui de la journée de la vie consacrée puisque vous faites partie de ces consacrés. Donc le 2 février, c'est la journée de la vie consacrée. Alors est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur la signification de cette journée qui tombe en fait le jour de ce qu'on appelle la chandeleur aussi?
Ah, exactement, oui, c'est ça. Alors, ça ne tombe pas par hasard, hein, bien sûr, puisque cette journée a été choisie en fait par le pape Jean-Paul II. C'est lui qui a, sauf erreur de ma part, c'est lui qui a créé cette journée de la vie consacrée, je pense, à la fin des années 90. Ça doit faire 25 ans ou un peu plus qu'on célèbre cette journée de la vie consacrée. Alors, si vous voulez le sens, en réalité, le pape avait pensé qu'il fallait, que c'était pas inutile, et peut-être le moins qu'on pouvait faire, de consacrer une journée de l'année liturgique, une journée de fête, à rendre grâce au Seigneur, quoi, pour la vie consacrée, alors la vie consacrée, c'est, je sais pas si je dois expliquer ce que c'est, mais c'est...
Oui, mais peut-être d'abord, pourquoi ça a été choisi le jour de la fête de la Lumière? Est-ce qu'il y a un lien?
C'est très lié, effectivement. La vie consacrée, c'est un don gratuit des personnes à l'Église, hein, par appel du Seigneur, pour donner sa propre vie au Seigneur, par amour du Seigneur. Et alors, même si tout baptisé est consacré, on peut dire, en réalité, il y a un appel spécial de certaines personnes qui sont aujourd'hui qu'on appelle les moines, les moniales, les religieux, les religieuses, les prêtres, les vierges consacrées aussi. Donc, toutes ces personnes donnent leur vie au Seigneur et à l'Église. Et alors, Jean-Paul II avait pensé que le 2 février, où Jésus est présenté au Temple par Marie et Joseph, hein, 40 jours après la naissance, c'était dans le rituel juif, Jésus a été amené par ses parents au Temple, présenté à Dieu, d'une certaine manière consacré à Dieu.
Donc c'est ça le lien, en fait.
Voilà, et le lien est là. On s'est dit ce jour où le Seigneur s'offre lui-même à Dieu et à l'Église, hein, aussi, eh bien, correspond bien à un jour d'offrande, un jour de consécration. Et du coup, pour les personnes consacrées, le pape leur a attribué ce jour de fête, quoi.
Alors,
c'est vrai, vous prononciez le nom de l'heure. On appelle la fête, mais alors depuis très longtemps, hein, la fête de la chandeleur à l'Église, le 2 février, il est célébré dans l'Église depuis le 5e siècle. C'est le pape Gélase à Rome, hein, qui commence à faire célébrer cette fête. Et c'est une fête qui se célèbre avec une grande procession de lumière. On a les torches à la main, ou bien les cierges allumées à la main, et on chante la gloire de Dieu avec de la lumière. Parce que, alors il faut rapprocher cette lumière, cette festa candelorum, fête des chandelles, des chandeleurs, il faut la rapprocher de ce que dit le vieillard Siméon, hein, quand il reçoit Jésus dans ses bras. Le jour de la présentation au temple, il dit, il chante son fameux cantique et il dit, mes yeux ont vu le salut, et il appelle ce salut, ce Christ qu'il reçoit dans ses bras, et il l'appelle lumière pour éclairer les nations. Donc la chandeleur ou le 2 février, c'est une fête de la lumière, le Christ étant cette lumière, bien sûr. Voilà.
Ouais, donc c'est un très beau choix d'avoir choisi donc cette journée de la vie consacrée, le jour de la fête de la lumière.
C'est une très belle fête. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que peut-être ce 2 février, il clôture, hein, il termine tout le temps de Noël, toute la fête de l'incarnation, l'Avent, Noël, Épiphanie, etc. Tout ça se termine, le temps liturgique se termine le 2 février, le jour de la chandeleur. Et au fond, c'est peut-être une invitation, c'est intéressant ce choix de la fête aussi pour ça, c'est une invitation à passer à, je dis pas à autre chose, mais on célèbre la naissance, c'est bien, maintenant le Christ est entre nos mains, il est cette lumière dans nos vies, et qu'est-ce qu'on va faire avec cette lumière dont on a célébré la naissance, quoi.
Alors vous le disiez, les consacrés, ça représente tout baptisé, on est tous consacrés, mais la vie consacrée dont on parle, le 2 février, c'est surtout les prêtres, les religieux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, consacré? Vous avez reçu un sacrement ou vous êtes engagé à quelque chose?
Alors non, si vous voulez, Je veux pas faire, je veux pas utiliser des mots trop savants, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle l'ordre institutionnel. L'Église, elle fonctionne avec des ministres, les prêtres, les évêques, les diacres. Eux reçoivent un sacrement, le sacrement de l'ordre, qui les range dans, je dirais, dans le personnel actif et de l'Église et dans des ministères de service du peuple de Dieu. Ça, c'est l'ordre de l'institution. Et donc, on est ordonné pour ces ministères-là. En revanche, la vie consacrée, elle n'est pas un sacrement au sens des sept sacrements, hein. Elle est sur le don que font les personnes d'elles-mêmes, sur appel du Seigneur, un appel intérieur. Lorsque les personnes répondent, elles reçoivent une marque, disons, d'authentification, de bénédiction de leur choix de vie par l'Église. Alors, il y a un rituel de consécration, un rituel, on appelle souvent ça un rituel de profession. On s'engage, profession sainte, profession solennelle, profession perpétuelle, un religieux ou une religieuse s'engage dans la voie de la vie consacrée par un engagement public dans l'Église et il est béni par le prêtre ou l'évêque qui en a la charge. Mais ça n'est pas un sacrement. Mais donc la vie, elle est consacrée, je dirais quand même, officiellement, authentiquement, elle est reconnue par l'Église. Hein. C'est un engagement d'une vie charismatique, pas institutionnelle, charismatique. On est plutôt dans l'ordre du charisme, d'un appel personnel du Seigneur, mais c'est reconnu évidemment par l'Église.
Et les vœux que l'on fait,
si vous voulez, la caractéristique de la vie consacrée, c'est d'abord de prendre pour base l'Évangile, ce qu'on appelle les conseils évangéliques, et de suivre le Seigneur. Au plus près qu'on peut au long de la vie. Et donc, on engage les religieux à promettre, ça c'est des vœux très, très anciens, l'obéissance, la pauvreté et la chasteté, qui sont trois vœux qui, en somme, conduisent un peu à sur une voie de liberté. Par exemple, la pauvreté, on se désapproprie de biens personnels pour être plus libre, pour servir le Seigneur. C'est la même chose pour la chasteté, l'engagement dans le célibat. On parle plutôt maintenant du célibat consacré. Ça veut dire qu'on n'engage pas sa vie dans une famille, à fonder une famille pour rester libre au service du Seigneur. Bon. Et puis, la même chose pour l'obéissance. Il faut un peu abandonner les projets personnels, les projets de carrière ou d'autres choses pour être disponible, quoi. On se rend disponible dans une communauté entre les mains du supérieur.
Voilà. Et on fait forcément partie d'une communauté quand on est consacré?
Non, il y a pas mal de... Vous savez, depuis 15 ou 20 siècles qu'existe la vie consacrée, il y a eu pas mal de formes. On a essayé toutes les formes, toutes les voies. Par exemple, des ermites vont vivre tout seuls dans la montagne ou je ne sais où, ou dans le désert, et ils ne sont pas en communauté. Ou bien, par exemple, l'ordre des vierges consacrées, c'est un célibat consacré que des femmes promettent au Seigneur. Alors elles font la promesse entre les mains de l'évêque, mais après elles vivent dans le monde comme vous et moi, enfin pas comme vous et moi, mais pas comme moi,
comme moi,
mais, comme vous. Elles vivent dans le monde et on ne sait pas d'ailleurs forcément qu'elles sont vierges consacrées, mais elles vivent leur consécration au milieu avec une activité professionnelle, etc. Donc et là, du coup, elles ne sont pas en vie communautaire. Hein, voilà.
Et alors donc l'obéissance, du coup, elle concerne l'obéissance envers qui?
Alors il y a toujours dans l'Église, on trouve toujours à obéir, vous savez. Alors par exemple, une vierge consacrée, elle fait ses vœux de consécration entre les mains de l'évêque du diocèse où elle vit. Et après, il y a une forme de rattachement, c'est-à-dire que si elle a des grandes décisions à prendre dans sa vie, elle va en référer à l'évêque. Mais elle n'est pas dans l'obéissance comme des moines ou des moniales dans le monastère.
Alors justement, vous-même, frère Dominique Marie, vous êtes à la fois moine et prêtre, puisque les prémontrés, vous avez cette particularité.
Les prémontrés, ils sont dans une vie un peu... pas mixte au sens de la mixité masculin-féminin, mais une vie mixte entre la vie monastique communautaire et puis en même temps une vie apostolique, si vous voulez. L'ordre des prémontrés, chez nous, on n'est pas comme des bénédictins ou des chartreux qui vivent à l'intérieur du monastère au service de Dieu, mais on est à la fois dans le monastère et aussi à des tâches apostoliques autour du monastère, toutes les tâches qui peuvent servir l'Église locale. Voilà.
Et donc vous-même, vous avez été moine avant d'être prêtre?
Ah oui, alors, ben, si vous voulez, on n'est pas... Alors, les prémontrés ne sont pas des moines.
Voilà, chanoines, on dit, oui.
Mais chanoines, ça, c'est la vie canoniale. Alors, les chanoines réguliers, comme je suis là, ou comme nous sommes, les prémontrés, ils vivent... avec l'entrée au monastère, un noviciat, une profession simple, une formation de religieux, et puis un jour ils sont ordonnés prêtres. Hein, donc on a tous commencé ici, on a frappé à la porte du monastère en voulant vivre la vie commune et puis servir Dieu. Et un jour sur l'injonction de l'abbé, on est ordonné prêtre. Hein, voilà, mais c'est...
Alors les prémontrés ne sont peut-être pas totalement concernés par la baisse des vocations dont on parle quand même dans la vie consacrée, le vieillissement des communautés, mais comment est-ce qu'on appréhende cette nouvelle situation? Finalement, la journée de la vie consacrée, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de rendre grâce pour ce qu'on est et puis d'accepter?
Je crois qu'il faudrait que ça puisse être aussi une invitation pour les chrétiens dans le monde, dans les paroisses, etc., de rendre grâce au Seigneur, parce qu'il y a des consacrés, il y en a beaucoup, il y en a des milliers. En France, ils sont à peu près 20 000, il y a 15 000 religieuses apostoliques, puis il doit y avoir... 5 000 religieux, donc masculins, et puis il y a aussi les moines et les moniales qui sont plusieurs milliers aussi. Et donc c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de personnes consacrées, il y en a dans tous les diocèses, alors plus ou moins visibles, hein, certains diocèses sont plus riches que d'autres dans communauté, mais c'est vrai qu'il faut essayer de mieux connaître, de mieux aimer. À l'occasion de la journée de la vie religieuse, ça peut être l'occasion d'aller faire un tour, si on connaît aucun monastère, d'aller essayer, ou bien peut-être le week-end suivant, si on travaille, d'aller dans un monastère, visiter un monastère, rencontrer une communauté. Et en fait, c'est vrai que la situation nouvelle, vous avez raison, c'est, il y a beaucoup de, la moyenne d'âge de beaucoup de communautés, surtout les communautés apostoliques, est un peu préoccupante. Et on ferme des monastères, on ferme des couvents chaque année, on ferme des carmels, des monastères de Clarisse, des monastères de Visitandine, d'Ursuline. Et c'est vrai que c'est tout triste, parce que souvent ce sont des congrégations qui ont 400 ou 500 ans d'âge, qui ont fait beaucoup pour l'Église, dans l'enseignement, dans les hôpitaux, dans tout ça. Et donc c'est pas une situation très amusante, mais le Seigneur s'occupe de son Église, il a pas promis la vie éternelle vous savez, c'est pas dans l'Évangile, hein, les prémontrés et les visitandines, ça existe pas dans l'Évangile. Donc, les familles sont parfois remplacées les unes par les autres au fil des siècles, hein, donc il y aura, je pense, toujours la vie consacrée, parce qu'il y a toujours au cœur des hommes ou des femmes l'envie de suivre le Seigneur de au plus près, quoi.
Et c'est eux qui prient pour nous aussi. C'est important de leur dire qu'ils sont là aussi et qu'ils prient pour nous, laïcs.
Ben écoutez, c'est même notre première tâche, notre tâche principale. Hein. Je crois que il y a une sorte de gratuité, si vous voulez, dans la vie religieuse. Les gens disent, bah oui, qu'est-ce qu'ils font au monastère? Ben ils font rien du tout. Alors on fait semblant de faire. Il y a des monastères qui font du fromage ou de la confiture, très bien. Mais c'est pas l'important. L'important, c'est la prière du cœur, la prière au cœur, hein, dans l'église du monastère tous les jours, même s'il y a personne, là, en hiver, le matin, là, on célèbre l'office des vigiles et ensuite des lots très tôt dans une église qui est une glacière. Et alors, il n'y a personne, il n'y a pas de fidèles. Mais nous, on est là et on prie, on chante de tout notre cœur. Et en fait, on prie pour le monde, pour tous les gens qu'on connaît, tous les gens qui ont besoin de prière, tous les gens qui sont seuls, tous les gens qui ne vont pas, et aussi pour ceux qui vont. Et donc, il y a quand même au cœur de la vie consacrée, il y a l'idée qu'il faut célébrer le Seigneur, il faut le prier, le louer, le remercier pour le monde, et le supplier en cas de besoin. Et donc, en fait, on est toujours très occupé avec cette vie de prière.
C'est vrai que c'est important de redire cette mission essentielle de prière pour nous tous. Merci beaucoup, frère Dominique Marie Dezay. Je rappelle que vous êtes chanoine prémontré au monastère de Sarrance. Et merci de nous avoir éclairé, Vallée d'Aspe. Merci de nous avoir éclairé sur cette journée de la vie consacrée, donc le 2 février.